VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Avec vous, Nathalie Barge et Morgane Guériec. À la une ce soir en ce 26 mai 2015. Les élections burundaises, le gouvernement demande aux citoyens de contribuer au financement des scrutins législatifs et présidentiels du mois prochain. La MINUSMA, de nouveau la cible d'une attaque au Mali. Un casque bleu a été tué par balle hier soir à Bamako. Exhumation de Thomas Sankara au Burkina Faso. Des ossements ont été retrouvés aujourd'hui dans la tombe présumée de l'ex-président burkinabé. Au Kenya, bilan contradictoire après une attaque d'Al-Shabaab près de la frontière somalienne. En Irak, une offensive a été lancée pour reprendre Al-Anbar au groupe État islamique. Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le gouvernement burundais a appelé ses concitoyens à la solidarité nationale et a ouvert une souscription publique pour financer les élections législatives et présidentielles des 5 et 26 juin. C'est ce que rapporte l'AFP, les précisions de Jacques Aristide.
Dans un communiqué, la présidence burundaise précise qu'un compte dédié a été ouvert auprès de la Banque du Burundi. Elle invite à ce qu'elle appelle les citoyens patriotes à une contribution volontaire pour financer les élections et d'indiquer que le gouvernement a déjà rassemblé une bonne partie des moyens nécessaires pour la tenue de ces scrutins. Auparavant, le gouvernement avait déjà annoncé l'ouverture d'une ligne budgétaire de 44 milliards de francs burundais, environ 27 millions de dollars, pour financer le processus électoral. Une décision qui intervient après le gel de l'aide financière à hauteur de 80% par la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse, pays qui réclament le report des élections en raison des manifestations quasi quotidiennes contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Mais les autorités ont rejeté tout renvoi de ces scrutins.
Au Mali, un casque bleu bangladais a été tué et un autre grièvement blessé hier soir à Bamako. Des précisions avec Idriss Fall.
La mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a fait état d'un incident dans les environs de l'aéroport de Bamako. Le communiqué précise qu'un casque bleu a été blessé et un autre a succombé suite à ses blessures. Ils auraient subi des tirs d'assaillants inconnus, mais aucun impact de balle n'a été relevé sur leur véhicule. Une enquête est ouverte pour savoir ce qui s'est passé. La semaine dernière, un homme armé avait tenté d'attaquer une résidence du personnel onusien à Bamako, blessant un gardien. Depuis le déploiement de la MINUSMA en juillet 2013, plus de 30 casques bleus ont été tués au Mali. Ce mardi matin, des milliers de Maliens ont manifesté à Bamako pour soutenir l'accord de paix signé par le gouvernement. Les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad n'ont toujours pas signé le texte et exigent le retrait des milices pro-gouvernementales de la ville de Menaka, près de la frontière avec le Niger.
Exhumation de Thomas Sankara au Burkina Faso. Des ossements ont été retrouvés aujourd'hui dans la tombe présumée de l'ex-président burkinabé, assassiné en 1987 lors du coup d'État qui porta Blaise Compaoré au pouvoir. C'est ce qu'indique l'avocat de sa famille. L'exhumation qui concerne également 12 compagnons de Thomas Sankara a débuté hier. Thomas Sankara avait été enterré à la Sauvette le soir du 15 octobre 1987. Il aurait été inhumé au cimetière de Daguenouin, mais sa famille doute que son corps s'y trouve réellement. Au moins 23 personnes ont été tuées samedi dans le centre du Nigeria. D'après la police citée par l'AFP, l'attaque a été menée par des hommes armés inconnus contre 3 villages dans le district de Logo, dans l'état de Benue. Des nomades peuls musulmans en conflit de longue date avec des communautés d'agriculteurs chrétiens sont suspectés.
Conférence sur l'aide pour la Centrafrique à Bruxelles. La présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, exhorte la communauté internationale à verser l'aide promise au pays, notamment pour financer des élections d'ici la fin de l'année.
Nouvelle attaque meurtrière près de Garissa au Kenya. Cette fois-ci, ce sont les policiers kenyans qui sont les victimes d'Al-Shabaab. Les islamistes affirment ainsi avoir tué plus de 20 personnes. Des précisions avec Nicolas Pinault.
Ce qui est sûr, c'est que des policiers kenyans ont été attaqués dans la région de Garissa, plus précisément entre Fafi et Yumbis. Un véhicule a d'abord été touché par un engin explosif. Lorsque des renforts sont venus les secourir, les djihadistes d'Al-Shabaab leur ont tendu une embuscade meurtrière selon Mwenda Joka, porte-parole du ministère kényan de l'Intérieur. Selon un bilan provisoire confirmé par Nairobi, un policier est mort, 4 autres blessés. Mais 13 autres policiers seraient portés disparus, selon l'AFP qui cite le porte-parole de la police, Georges Kinoti, mais aucune confirmation officielle depuis. Une vaste opération de sauvetage est en cours pour essayer de retrouver les policiers disparus. Début avril, un commando Shabab avait attaqué l'université de la ville de Garissa et massacré 148 personnes, dont 142 étudiants.
Et retour sur les élections législatives et régionales qui se sont tenues dimanche en Éthiopie. La mission d'observation électorale de l'Union africaine estime que les scrutins ont été calmes, pacifiques et crédibles. L'Union note toutefois quelques irrégularités constatées le jour du vote. Ainsi, dans 21% des cas, les présidents de bureaux n'ont pas ouvert l'urne pour montrer qu'elle était vide avant de commencer le vote.
Et puis cette nouvelle pour le moins insolite, un avocat kényan propose 50 vaches, 70 moutons et 30 chèvres au président américain Barack Obama en échange de la main de sa fille Malia, âgée de 16 ans. C'est ce qu'indique le journal kényan The Nairobian.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, vaste opération militaire en Irak pour reprendre Al-Anbar au groupe État islamique. Les forces irakiennes aidées des milices chiites ont lancé ce mardi une offensive destinée à isoler les djihadistes dans cette province stratégique avant de tenter de récupérer sa capitale Ramadi. Félix Yepassi Zembrou.
Baptisée à tes ordres Hussein, l'opération vise à libérer les régions entre les provinces de Salah Eddin et d'Al-Anbar. C'est ce qu'a affirmé à l'agence France-Presse Hamed Al-Assadi, un porte-parole des unités de mobilisation populaire. L'annonce survient au lendemain des déclarations de la Maison-Blanche qui a tenté d'apaiser les tensions avec Bagdad, dont l'armée a été accusée d'un manque de volonté face à l'organisation État islamique par le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter. Capitale de la province d'Al-Anbar, la plus grande d'Irak, Ramadi avait résisté pendant des mois aux assauts des djihadistes qui l'ont finalement conquise le 17 mai après un assaut de grande envergure et une retraite chaotique des forces irakiennes. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a promis de reprendre cette région s'étendant des limites de Bagdad aux frontières syriennes, saoudiennes et jordaniennes.
La Russie a commencé un nouveau cycle d'exercices de l'armée de l'air ce mardi, coïncidant avec les manœuvres militaires de l'OTAN dans l'Arctique. Alors que les tensions montent dans la région, 12 000 soldats russes et jusqu'à 250 avions de chasse ont commencé lundi. Le même jour, 100 avions de combat des États-Unis et 8 pays européens se sont joints à l'exercice Arctic Challenge 2015, constitué de 4 000 militaires. Les exercices nordiques vont continuer jusqu'au 4 juin et seront suivis le 5 juin par les opérations annuelles Baltops de l'OTAN en mer Baltique, comprenant 4500 soldats en provenance de 17 pays.
Les États-Unis mènent des vols de surveillance pour aider à localiser les migrants qui ont été abandonnés par des passeurs en Asie du Sud-Est. L'ambassade américaine à Bangkok a dit au correspondant de la VOA en Asie, Steven Herman, que les vols de surveillance maritime ont commencé dimanche au large de la côte ouest de la Malaisie. L'ambassade n'a pas fourni plus de détails sur ces vols, si ce n'est qu'ils ont commencé après consultation avec les gouvernements de la région.
Le procès pour espionnage et propagande du journaliste du Washington Post, Jason Rezaian, a commencé ce mardi en Iran, à huis clos. L'agence de presse d'État iranienne IRNA rapporte que le procès a eu lieu dans un tribunal révolutionnaire qui traite généralement les cas impliquant la sécurité nationale. Rezaian a été arrêté en juillet dernier et détenu pendant des mois dans la tristement célèbre prison d'Evin en Iran, sans inculpation et sans autorisation de visite par un avocat. Il a depuis été autorisé à avoir une brève rencontre avec un avocat.
La vague de chaleur en Inde a fait plus de 500 morts et selon les prévisions météo, les hautes températures vont persister dans les prochains jours. La plupart des décès surviennent dans les états méridionaux d'Andhra Pradesh, du Telangana, où le service météorologique indien prévoit des températures qui vont dépasser 40 degrés Celsius jusqu'à la fin du mois. La vague de chaleur chaleur a produit des températures quotidiennes aussi élevées que 48 degrés Celsius la semaine dernière, ce qui a provoqué de nombreux décès.
Les équipes de secours au Texas sont à la recherche de 12 membres de deux familles qui ont disparu après de fortes pluies qui ont fait déborder la rivière Blanco et a emporté une maison de vacances. La tempête aux États-Unis a causé des inondations et des tornades qui ont tué au moins 8 personnes dans l'Oklahoma et le Texas. Plus de 1000 maisons ont été endommagées ou détruites au Texas et des milliers d'habitants sont déplacés. Au Mexique, les gens nettoient la ville Ciudad Acuña après qu'une tornade a tué au moins 13 personnes. La tornade a également détruit des centaines de maisons. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Et ce soir, Morgane, c'est avec
Nathalie Barbe.
Oui, allons-y.
Cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement aujourd'hui à Abidjan. Le président sortant, Donald Kaberuka, a exprimé sa fierté concernant l'évolution de l'institution qui fête ses 50 ans. Son successeur devrait être connu jeudi. Monsieur Kaberuka laisse derrière lui une institution financièrement solide, auréolée de la note AAA décernée par l'agence financière américaine Fitch. Longuement ovationné par plusieurs chefs d'État africains, Donald Kaberuka a été chaudement félicité par l'ivoirien Alassane Ouattara. Votre bilan est impressionnant. Vous avez su défendre les intérêts africains contre vents et marées, a-t-il déclaré. L'économie sud-africaine, la plus industrialisée du continent, a enregistré une croissance de seulement 1,3% du PIB au premier trimestre, selon l'Agence nationale statistique Stats-SA. Un chiffre très décevant, la croissance des pays africains est en moyenne de l'ordre de 5%. Une mauvaise performance due à une baisse de l'industrie manufacturière et aux mauvais résultats agricoles. Les gouvernements sénégalais et marocains ont signé 15 nouveaux accords commerciaux, notamment dans l'immobilier, le transport et l'énergie solaire, à l'occasion de la visite au Sénégal du roi Mohamed VI. À noter le financement pour la deuxième université de Dakar et la construction d'un nouveau quai de pêche, toujours à Dakar, pour améliorer les conditions de travail des pêcheurs artisanaux sénégalais.
Merci Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco. Et à présent, les sports avec Nicolas Pinault.
Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Hervé Renard, le nouvel entraîneur du LOSC, arrivé lundi dans le Nord, a signé ce matin à Lille un contrat de 3 ans sous ses nouvelles couleurs.
Oui, c'est fait, c'est officiel. Hervé Renard est le nouvel entraîneur de Lille. Le nouveau coach du LOSC a participé peu après son arrivée à sa première réunion de travail avant de signer peu avant midi un contrat de 3 ans en faveur du club lillois. Dans la foulée, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a donné sa première conférence de presse.
Sepp Blatter, probablement en route pour sa réélection à la tête de la FIFA.
Joseph Blatter, qui dirige la FIFA depuis 1998, s'est dit confiant en vue de l'élection présidentielle de son instance vendredi à Zurich. Sepp Blatter, 79 ans, est archi-favori pour un cinquième mandat face au prince jordanien Ali, 39 ans. C'est tout sauf une élection, c'est un plébiscite qui a pour objectif de remettre le pouvoir absolu à un homme, avait dénoncé Luis Figo peu avant, l'ancienne star du Real de Madrid, au moment de son retrait, citant sans le nommer Blatter, qui n'a même pas pris la peine de présenter un programme, selon lui.
Tennis, tournoi de Roland-Garros.
Novak Djokovic, numéro 1 mondial, s'est qualifié pour le deuxième tour, malgré un temps faible au deuxième set, face au Finlandais Jarkko Nieminen, 87e joueur mondial. Il l'a battu en 3-7, 6-2, 7-5, 6-2. Quant à la Canadienne Eugénie Bouchard, demi-finaliste sortante, elle a été éliminée d'entrée par la Française Kristina Mladenovic, en 2 manches, 6-4, 6-4.
Tour cycliste d'Italie.
L'Espagnol Alberto Contador a dominé mardi le Mortirolo, le grand col de la 16e étape du Giro, gagné par son compatriote Mikel Landa dans la station d'Aprica. Mercredi, le Giro fait une incursion en Suisse pour la 17e étape, dont l'arrivée sera jugée à Lugano.
NBA, les playoffs se poursuivent.
Oui, Houston a sauvé l'honneur en remportant hier le match numéro 4 de la conférence Ouest contre Golden State. Les Rockets se sont imposés 128 à 115 devant leur public, mais sont toujours dos au mur puisque les Warriors mènent 3 victoires à 1 et n'ont plus besoin que d'un succès pour disputer leur première finale NBA depuis, tenez-vous bien, 1975.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Morgane Guiriec en votre compagnie. Place au dossier du jour. Au Niger, 38 organisations de la société civile appellent à une marche le 2 juin à Niamey pour exiger la libération immédiate de deux de leurs leaders, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, est accusé de complicité avec Boko Haram et Nuhu Arzika du mouvement pour une citoyenneté responsable est accusé d'atteinte à la défense nationale. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Ali Idrissa, signataire de la déclaration de la société civile à Niamey.
Nous refusons d'accepter que nos camarades gardent prison sous de fallacieux prétextes parce qu'ils n'ont fait que émettre des avis sur des chaînes de radio et de télévision. En matière de délit de presse chez nous, aujourd'hui, c'est dépénalisé pour avoir émis des avis, pour seulement avoir, au cas de Nuhu, exigé à ce que les forces de sécurité soient mises dans les conditions pour pouvoir combattre les terroristes. Nous ne pouvons pas considérer que c'est lui qui va être accusé d'atteinte à la défense nationale. Il n'a fait que appeler à un renforcement du dispositif nigérien de lutte contre Boko Haram.
Moussa Tchangari, que vous connaissez très bien, accusé de coopération avec Boko Haram.
Moussa a fait un rapport tiré de fait sur le terrain. Moussa a été voir des chefs traditionnels de la région de Kifa qui ont été interpellés et il a été pris dans ces conditions pour être accusé lui aussi de complicité avec Boko Haram. Comment comprendre que Moussa, un acteur de la société civile qui lutte depuis tout ce temps pour la démocratie et les droits humains, depuis les années 90, puisse être lui se mettre en complicité avec Boko Haram? Pour nous, Moussa n'est pas coupable des faits dont il est accusé. Inch'Allah, la justice nous dira ce qu'il en est. Mais il est très urgent de libérer nos camarades.
Est-ce qu'il y a eu des suites après l'attaque de Boko Haram sur cette île du lac Tchad? On parle d'une centaine de soldats nigériens qui ont été tués.
Ça a été dramatique pour le Niger et le peuple nigérien d'assister à ce carnage que Boko Haram a eu à opérer sur l'île de Karanga. Et nous avions seulement exigé du gouvernement qu'il puisse mettre dans les conditions de pouvoir combattre Boko Haram, nos soldats, en les dotant de tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent arriver à mettre fin à cette maîtrise qui, aujourd'hui, déstabilise toute une région. Aujourd'hui, la région de Tifa, il n'y a aucune activité dans cette région. Tous les commerces sont en faillite. Même les écoles sont fermées. Il y a des centres de santé fermés. Il y a des enseignants qui ont été obligés de fuir cette région. Pour nous, il est urgent qu'on puisse mettre des moyens nécessaires pour pouvoir garantir la sécurité des biens et des personnes. C'est une partie intégrante du territoire nigérien.
Ali Idrissa, signataire de la déclaration de la société civile à Niamey.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondjouchi.
Le Tchad et le Cameroun affirment qu'un grand nombre de mines antipersonnelles ont été posées par des combattants de Boko Haram le long de la frontière camerounaise avec le Nigeria. Il s'agit donc d'un véritable danger à la fois pour les populations et les soldats, mais aussi pour le bétail. Une situation qui a poussé les deux pays à déployer des unités spécialisées de leurs armées respectives afin de détecter et détruire ces mines. Sur place à Yaoundé, la correspondance de Moké Edwin Kinzeka, son reportage est présent. Présenté ici par Jacques Aristide.
La mission est périlleuse, mais les militaires tchadiens et camerounais ont donc décidé de conjuguer leurs efforts pour l'accomplir. Leur objectif, encercler la forêt de Sambisa, considérée comme l'ultime refuge de Boko Haram. La bataille est donc difficile dans cette zone où de nombreuses mines antipersonnelles ont été détectées. Ce qui fait que pour l'heure, il est encore impossible de complètement sécuriser la partie nord de la frontière du Cameroun avec le Nigeria. Le ministre camerounais de la Défense, Edgar Alain Mebengo.
Son Excellence Idriss Déby Itno a pris la décision pragmatique de venir aux côtés du Cameroun pour conduire cette guerre. Beaucoup a déjà été fait, même si beaucoup reste à faire. À mener cette guerre jusqu'à l'éradication définitive du groupe terroriste Boko Haram.
Mais cet assaut militaire contre la forêt de Sambisa n'est pas nouveau. Le mois dernier, l'armée nigériane a lancé des raids aériens contre cet endroit. Une offensive selon Abuja qui a pu lui permettre de libérer des centaines de personnes détenues en captivité par les insurgés. Toutefois, les militaires nigérians ont également concédé que les mines antipersonnelles ont entravé leur avancée dans cette forêt en vue d'éradiquer les islamistes du groupe armé. Les populations locales ne sont pas non plus à l'abri de ces mines, car beaucoup de villageois en ont été victimes, des mines qui frappent également leur bétail. Les habitants de la région ne se sont donc pas fait prier pour faire part de leur grief à ce sujet au commandant des forces camerounaises contre Boko Haram, le colonel Jacob Kodji.
Il contribue activement dans cette lutte en fournissant les informations utiles aux autorités compétentes.
Depuis ces deux derniers mois, le Cameroun n'a pas été confronté à des attaques de grande envergure de Boko Haram, à l'image de celles très meurtrières que le groupe a perpétrées par le passé sur le territoire camerounais. Évidemment, Yaoundé demeure éminemment prudent, car d'après des militaires camerounais, les mines antipersonnelles que les islamistes nigérians ont plantées tout autour de leur cachette sont destinées à dissuader les armées du Tchad, du Cameroun et du Nigeria d'avancer dans la forêt de Sambisa, le temps pour les insurgés de se remettre en ordre de bataille.
Peut-être une solution à la pénurie de produits pétroliers au Nigeria. Un accord a été trouvé hier lors d'une rencontre entre la Commission des ressources pétrolières du Sénat, les représentants du gouvernement fédéral et ceux des grossistes. Ces derniers avaient arrêté la distribution du carburant, accusant le gouvernement de ne pas avoir versé l'équivalent $1 milliard qui leur était dû. La décision avait pratiquement paralysé l'économie nigériane ces dernières semaines. Pour une réaction, Timothée Donangmaï a joint à Zaria, dans le nord du Nigeria, le professeur Oudou Ayouba, enseignant de sciences politiques à l'université Amadou Bello.
Je ne pense pas que ce soit un problème de l'Assemblée nationale. Bon, c'est vrai que c'est nos représentants, mais je pense que c'est l'exécutif qui doit résoudre ce problème. En plus, l'exécutif n'arrive pas à résoudre ce problème, c'est pourquoi le Sénat est intervenu. Et puis, bon, ils disent qu'ils ont eu un accord avec les fournisseurs, mais là, sur le terrain, rien de concret.
Alors, quels sont les griefs des fournisseurs?
L'État subventionne le carburant au Nigeria. Ça coûte à l'État des milliards de naira que les fournisseurs prennent comme subvention. Et puis, ils n'ont pas payé ces subventions-là pendant plusieurs mois. Et puis les fournisseurs, ils ont arrêté de fournir le carburant sur le marché. Il y a de cela un mois, l'État a versé de l'argent à ses fournisseurs, mais il semble que ce n'était pas le montant complet. Donc c'est une sorte de grève de la part des fournisseurs ou quoi, on ne comprend pas. Mais bon, voilà, c'est ça la situation.
Alors vous vivez à Zaria, à des milliers de kilomètres des raffineries de pétrole. Comment vivez-vous la pénurie là-bas?
Très, très difficile, très difficile. Là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de carburant. On achète au marché noir à plus du double du prix du carburant. Plus le temps va, plus ça devient plus cher, parce que chaque jour, le prix des produits de consommation a augmenté, parce que là, le transport a augmenté, le prix du transfert a augmenté, donc tout a augmenté.
Qu'est-ce que tout cela représente comme défi pour le président élu, Muhammadu Buhari, qui prend fonction cette semaine?
Vraiment, ça sera très difficile pour lui, parce que là, les gens parlent déjà du sabotage. Hein. C'est comme si c'était un sabotage de la part du gouvernement sortant. Le transfert de pouvoir, ce sera le vendredi 29. Bon, et puis, avec tout ce qui se passe là, bon, les gens parlent d'un sabotage, quoi.
Le professeur Oudou Ayouba a été joint à Zaria, dans le nord nigérian.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, une série de reportages sur le drame de l'immigration en Méditerranée. Les naufrages ont déjà fait des milliers de morts. Comment l'Union européenne peut-elle régler le problème? Faut-il un plan robuste contre les trafiquants de migrants? Et l'Union africaine doit-elle agir également? Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Les pays de l'OCDE ont alloué l'an dernier moins d'un tiers de leur aide au développement aux pays les plus pauvres, dénonce l'ONG One dans un rapport. Elle appelle ces pays à allouer 0,7% de leur richesse à l'aide au développement, conformément à l'objectif des Nations Unies. Alors Nathalie Barge, vous avez joint Frédérique Roder, directrice de One France.
C'est tout à fait incompréhensible que l'aide vers les pays les moins avancés recule, parce que c'est là que l'extrême pauvreté se concentre. En fait, on estime que 43% de la population dans les pays les moins avancés vivent dans l'extrême pauvreté, contre 13% dans les autres pays en développement. Donc les financements devraient aller en majorité vers ces pays-là. Et d'ailleurs, c'est une volonté affichée de beaucoup de pays, comme par exemple de la France. Mais malheureusement, les chiffres ne suivent pas. On a fait le calcul et on estime qu'il faudrait dépenser $500 par personne par an pour pouvoir fournir vraiment le strict minimum en services essentiels à la population. Donc on parle de l'accès aux soins, de l'accès à l'éducation primaire et secondaire, donc vraiment les services essentiels. Pour vous donner un exemple, le Libéria aujourd'hui n'a que $6 par personne par an que ce pays peut dépenser pour la santé et l'éducation.
Est-ce que l'on pourrait comparer aux pays occidentaux, par exemple, combien est dépensé par personne par an au niveau de l'éducation et de la santé, en moyenne ?
Oui, on est à plusieurs milliers de dollars par an pour la plupart des pays de l'OCDE et même les autres pays en développement qui arrivent à dépenser autour de $2,000 par personne par an. Malheureusement, on a plusieurs pays parmi donc les pays les moins avancés qui dépensent moins de $150 par an par personne. Nous, on estime qu'il faudrait $500 par personne par an et c'est quelque chose qui peut tout à fait être financé. Donc One, dans son rapport, préconise différentes mesures. Donc il y a bien sûr l'aide publique au développement qui doit aller vers les plus vulnérables, les plus pauvres. Il y a aussi les pays, même les pays en développement, qui doivent lever plus de recettes fiscales et réorienter cet argent vers les secteurs sociaux comme la santé et l'éducation. Et en même temps, il faut bien évidemment soutenir la croissance dans ces pays, mais pas n'importe quelle croissance, mais la croissance inclusive qui permet à créer, par exemple, des emplois. Donc on préconise, par exemple, des investissements dans le secteur de l'agriculture, qui est un secteur qui crée 11 fois plus d'emplois que d'autres secteurs économiques en Afrique. Et dernière mesure que One préconise, c'est de lutter plus efficacement contre la corruption et l'évasion fiscale au niveau international et national. Et là, on parle d'une responsabilité partagée entre les pays du Sud et du Nord.
Frédérique Roder, directrice de One France, jointe à Paris.
Salut les amis, ici Roger Muntou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, rap music. Notre question pour cette semaine, que pensez-vous du mariage précoce ? Après le mariage forcé, nous enchaînons avec le mariage précoce. Aussi les amis, 28 ans après sa mort, on continue à parler de Thomas Sankara. Que retenez-vous de l'homme ? Vos points de vue cette semaine dans RM Show. Envoyez-nous vos réactions par SMS au +225 58 92 85 40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001 202 619 31 40. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, un rappel des grands titres.
Les élections burundaises, le gouvernement demande aux citoyens de contribuer au financement des scrutins législatifs et présidentiels du mois prochain.
La MINUSMA, de nouveau la cible d'une attaque au Mali. Un casque bleu a été tué par balle hier soir à Bamako.
Exhumation de Thomas Sankara au Burkina Faso. Des ossements ont été retrouvés aujourd'hui dans la tombe présumée de l'ex-président burkinabé.
Au Kenya, bilan contradictoire après une attaque d'Al-Shabaab près de la frontière somalienne.
En Irak, une offensive a été lancée pour reprendre Al-Anbar au groupe État islamique. Cette édition touche à sa fin. À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma, présentation Nathalie Barge et Morgane Guiriec.
Et ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Dans moins d'une minute, à peu près, les infos.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.